Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'était il y a 30 ans, pendant qu'à Pékin, l'armée chinoise réprimait dans le sang les manifestations place Tiananmen, en Pologne, le syndicat Solidarité remportait les premières élections semi-libres ou semi-encadrées de l'histoire du pays. Quelques mois plus tard, le mur de Berlin tombait, entraînant dans sa chute le bloc de l'Est. 15 ans plus tard, la Pologne adhérait à l'Union Européenne avec les pays baltes, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque, suivie 2 ans plus tard par la Roumanie et la Bulgarie. Mais encore 15 ans après, le doute, voire la méfiance, semble s'être installé entre certains pays de l'Est de l'Europe et l'Union. Le rêve européen est-il passé à l'Est du continent? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Emilia Robin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne et chercheuse associée à l'UMR CIRIS. Et Lorne Maillère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue et maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. J'ai postulé qu'il y avait un rêve européen, mais en 1989, Emilia Robin, est-ce que les pays de l'Est de l'Europe rêvaient vraiment d'Europe ou rêvaient plutôt d'Ouest en général?
Alors, d'Ouest en général, il n'y a aucun doute, mais il ne faut pas sous-estimer la force d'attraction de l'idée européenne depuis ses origines au 19e puis au 20e siècle, et l'idée d'avoir une Europe unie et réconciliée, réunie, une fois disparue la coupure Est-Ouest, était très forte, et l'Union européenne... qui à l'époque était CE, pouvait être une piste également avec des rêves de Mittel Europa à cette époque.
Un doute, voire de la méfiance, comment analysez-vous les rapports entre Bruxelles et certains pays de l'Est du continent à l'heure actuelle, Lorne Maillère?
Ah ben, je pense que ça va au-delà du doute, en fait. On a des rapports conflictuels entre les autorités européennes et le gouvernement polonais, le gouvernement hongrois, le gouvernement roumain, qui tiennent à des problèmes relatifs au respect de l'état de droit, des valeurs de l'Union européenne, des droits des minorités, toute une série de sujets de contentieux ouverts entre ces gouvernements et la Commission européenne en particulier.
Emilia Robin, il y a eu une déception qui s'est installée au fil des ans.
C'est compliqué de parler de déception vis-à-vis de l'UE en général. Il y a un processus, si on regarde sur 30 ans, les relations avec l'Europe ne se limitent pas aux relations avec l'Union européenne en tant que telle. D'abord, c'est une relation qui s'est construite avec des programmes d'accompagnement des pays d'Europe de l'Est, qu'on parlait des PECO à l'époque, de la part de la CE.
Les pays d'Europe centrale et orientale, je
voilà,
décide.
Qui voilà, qui était une appellation générique, comme on a eu les BRIC ensuite. Donc il y a eu ces programmes d'accompagnement, il y a eu les critères de Copenhague, à savoir économie de marché, démocratie libérale acceptation de l'acquis communautaire de l'ensemble des règlements et lois européennes pour pouvoir intégrer l'Union européenne. Il y a eu les processus de préadhésion, les contrats européens d'association, etc. Donc c'est un processus très long et qui ont été négociés par l'Europe de l'Est souvent de façon extrêmement serrée. En particulier, la Pologne a négocié presque litre à litre ses quotas de lait. Mmh. Donc c'est quelque chose qui s'est fait progressivement et qui s'accompagnait de transformations intérieures. Donc tous les phénomènes sont parallèles. Certaines désillusions intérieures et certaines désillusions extérieures.
On va peut-être parler de ce que Bruxelles reproche à certains pays, et vous le disiez, Lorne Maillère, une dérive sur les valeurs fondamentales de l'Union européenne. C'est le cas notamment avec la Pologne et surtout la Hongrie.
Oui, alors ces deux pays, dans ces deux pays, en fait, on a des gouvernements ultra-conservateurs qui cherchent à affaiblir les contre-pouvoirs, en particulier le pouvoir judiciaire. En Hongrie, ça va encore plus loin avec toute une série de mesures qui renforcent le contrôle du gouvernement sur la presse, donc la liberté des médias est en danger, la liberté académique est en danger également. Donc on voit vraiment un conflit de valeurs entre ces gouvernements qui, au nom de la protection de l'intérêt national, remettent en cause les valeurs fondamentales sur lesquelles est fondée l'Union européenne et les valeurs qu'ils s'étaient engagés à respecter pour pouvoir entrer dans l'Union européenne avec des politiques anti-libérales que eux appellent que Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, appelle une démocratie illibérale, mais qui revient en fait à des valeurs très traditionnelles et à un type de gouvernement autoritaire.
Emilia Robin, ces valeurs, ce socle de valeurs, ce socle juridique, vous l'avez dit, était accepté en bloc au moment des négociations d'adhésion. Pourquoi ce retour en arrière? Est-ce qu'il y a une explication qui est avancée ou que vous avez pu voir évoluer au fil des ans?
La notion de valeur et de socle est extrêmement large. Quand on parle par exemple de la transformation d'un en démocratie libérale, ça demandait de repenser l'ensemble des codes judiciaires, des codes électoraux, des organisations du pouvoir à tous les échelons, du système électoral, de la place de la société civile, du statut des associations, toute une série d'aspects. Et les critères européens sont l'héritage d'une construction sur plusieurs siècles qu'il s'agissait d'accepter en bloc en quelques années seulement.
Ce que vous nous dites, c'est que c'est allé peut-être un petit peu vite et qu'il y a une sorte d'inertie qui se fait jour depuis quelques années.
Il y a ces normes génériques et ensuite il y a la façon dont on perçoit pays par pays, ce qui relève de la tradition nationale, ce qui relève de l'identité nationale. Et dans certains cas, certaines valeurs vont contre certains éléments d'identité nationale. On peut penser, par exemple, aux lois concernant la contraception ou les droits des femmes en Europe de l'Est. Dans certains cas, la question de la réforme de la limitation de l'avortement en Pologne a mis en valeur le contraste entre la position libérale européenne et la position plus restrictive de certaines catégories de population en Pologne.
Lorne Meyer, cet argument de la tradition locale, c'est celui qui est opposé le plus généralement ?
Oui, alors il y a cette idée de la tradition et puis il y a aussi un attachement à la souveraineté nationale pour des pays qui ont été encore très récemment sous domination soviétique. Cet attachement à la souveraineté, il est instrumentalisé en fait par des forces politiques anti-européennes qui assimilent l'Union européenne à l'URSS, alors qu'on sait très bien que ce sont...
C'est toujours le cas ça, cette image de l'Union soviétique européenne, si je peux dire ça.
Oui, alors pas forcément dans les termes exacts, mais dans le discours de Viktor Orban par exemple, il y a toute cette idée que finalement le changement de 1989 n'a pas été un vrai changement puisque la Hongrie est passée sous la coupe des autorités de Bruxelles qu'on ne nomme jamais, qu'on ne dit jamais qu'en fait les Hongrois participent à toute la prise de décision au niveau européen. Donc c'est une sorte d'utilisation d'un discours traditionnel selon lequel les nations centre-européennes ont été dominées toujours au cours de l'histoire, un jour par les empires, l'empire austro-hongrois, l'empire soviétique ou l'Union européenne. Donc le thème de la souveraineté, je pense, est aussi extrêmement important.
Emilia Robin, cet aspect domination d'une puissance extérieure, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous ces pays du bloc de l'Est, l'Union soviétique européenne. On a déjà entendu des choses comme ça et c'est récurrent. Ça date de l'adhésion, en fait.
L'idée, effectivement, l'expression d'Union soviétique européenne, je suis pas sûre qu'elle existe.
C'est moi qui l'ai dit, par facilité de langage.
Mais voilà, effectivement, en 89, il y a un immense espoir de libération et de réintégration d'une communauté européenne au sens, je vais pas dire au sens mystique, mais au sens large, non politique. C'est-à-dire la communauté de tous les États européens partageant une même culture, une même histoire, malgré une coupure pendant des décennies. Donc il y a cette idée de réintégration d'une communauté de destin qui est également la fin de la domination de l'URSS, la fin du pacte de Varsovie, la fin du Comecon qui ligotait le commerce extérieur des pays d'Europe de l'Est. Donc il y a une idée de libération, mais rapidement, la géopolitique, la contrainte, la nécessité, l'intérêt bien compris, amène à intégrer d'une part et simultanément l'OTAN et l'Union européenne. Et l'Union européenne, il y avait ce fameux troisième critère de Copenhague, l'acquis communautaire, dont on sait qu'il est énorme, parce que ce sont non seulement les traités, mais l'ensemble des règlements, directives et toute une forme de jurisprudence dans tous les domaines d'action de l'Union européenne, dont on sait qu'ils se sont complexifiés et renforcés au fil du temps.
On a parlé de la Pologne, on a parlé de la Hongrie, Lorne Meyer, en Roumanie, l'homme fort de la majorité, Liviu Dragnea, le social-démocrate qui tire un petit peu sur l'urbanisme, on va dire, vient d'être emprisonné. C'est un bon ou un mauvais signal pour, à la fois vu de Bruxelles et vu de ceux qui sont peut-être pas forcément pour davantage d'intégration au niveau européen en Roumanie.
Je pense que ce que ça signifie, le cas de la Roumanie est très intéressant parce que comme dans le cas de la Pologne, en Roumanie, on a quand même une société très divisée au sujet de l'intégration européenne. On a des forces politiques libérales ou conservatrices qui sont très favorables à l'intégration européenne parce que elles considèrent que justement le regard de Bruxelles impose quand même certaines limites aux dérives autoritaires nationales. Et donc l'emprisonnement de ce dirigeant réjouit une partie de la société roumaine qui considère qu'il est allé trop loin dans des réformes antidémocratiques et qu'il est nécessaire de respecter justement les valeurs européennes.
Ça, Émilia Robin, il y a dans tous ces pays de l'Est, il y a une forte polarisation sur les questions européennes, ou est-ce que il y a un accord pour dire que en Pologne par exemple que l'Union européenne ou en Hongrie elle s'ingère un petit peu trop dans les affaires intérieures, ou est-ce que ça polarise vraiment la société?
J'avoue que là, il faudrait regarder dans le détail.
Historiquement, sur les dernières années, je veux dire, oui.
Il y a une acceptation globale et le constat dans les faits qu'un certain nombre d'aides, de possibilités s'ouvrent. Mais de la même façon qu'en France, il y a le constat Erasmus ou toute une série d'actions ou de programmes de l'Union européenne qui sont perçus positivement. Néanmoins, et comme dans tous les pays, également en France, très facile d'instrumentaliser l'ignorance des processus de décision ou de monter en épingle certaines décisions ou de simplement désinformer sur certains aspects pour présenter, quand c'est politiquement opportun, l'Union européenne comme un adversaire.
Il y a des pays dont on n'a pas parlé, l'Orne Maillère, parce qu'ils sont un petit peu particuliers, ils sont trois, collés les uns aux autres, et collés à la Russie, ce sont les pays baltes. Comment est-ce que on aborde les questions européennes là-bas? C'est une protection? C'est un petit peu compliqué la situation.
Alors c'est très compliqué puisqu'effectivement ce sont trois petits pays à côté d'un immense voisin et qu'il y a un sentiment de vulnérabilité très fort dans les pays baltes qui est encore plus fort à l'heure actuelle après l'annexion illégale de la Crimée par la Russie. Dans les pays baltes, on a toujours considéré l'Union européenne et surtout l'OTAN comme des éléments indispensables de protection de la souveraineté nationale, donc c'est assez paradoxal contradictoire avec le discours qu'on peut entendre en Hongrie ou de la part des dirigeants hongrois ou polonais qui voient dans l'Union européenne une menace sur la souveraineté. Dans les pays baltes, c'est plutôt une forme de protection en réalité. Quand on regarde le résultat des élections européennes dans les pays baltes, ce sont des forces pro-européennes, libérales ou conservatrices, mais pro-européennes qui ont remporté les élections. Donc on n'est pas du tout dans la même situation qu'en Pologne ou en Hongrie.
Et ça nous amène, Émilia Robin, à la question stratégique. Il y a un attachement peut-être plus fort, davantage de confiance envers l'OTAN, donc envers les États-Unis qu'envers l'Europe dans les pays de l'Est ou pas? Est-ce qu'on fait davantage confiance au bouclier et à la protection des Américains qu'à la protection européenne face à la menace russe? Parce que c'est quand même quelque chose qui sous-tend la vie politique interne de ces pays.
La protection, c'est quelque chose qui se passe à plusieurs niveaux. Mmh. Le fait d'appartenir politiquement à l'Union européenne est un élément de bloc, si on peut dire, un élément protecteur dans la mesure où on a l'Union européenne derrière soi sur différents plans. Les sanctions sont d'abord économiques et là-dessus, l'Union européenne joue son rôle. Donc, il y a cette dimension politique d'être adossée. Ensuite, pour la défense à proprement parler, l'Union européenne...
La défense européenne,
on va dire,
n'existe pas encore vraiment. C'est ce que vous voulez dire.
Et l'OTAN est un point d'ancrage énorme. On sait les États-Unis ont des accords avec les pays un certain nombre de pays d'Europe de l'Est pour des points d'implantation de rampes anti-missiles tournées officiellement vers l'Iran ou d'autres États, mais dont on sait que c'est également contre la Russie.
Cet aspect de défense, il est important aussi dans ces relations avec l'Europe, Lorne Maillère.
Ah oui, bien sûr, et c'est pour ça que dans les années 90, on parlait en Europe de l'Est d'intégration euro-atlantique, c'est-à-dire que l'Union européenne et l'OTAN étaient vus comme deux éléments d'un même ensemble que ces pays voulaient intégrer. Et il y a un attachement très fort aux liens transatlantiques, une sorte de méfiance aussi vis-à-vis des pays d'Europe occidentale qui n'ont pas toujours rempli leurs promesses à la fin des années 30, quand l'Allemagne nazie s'est attaquée à la Tchécoslovaquie ou à la Pologne. Donc l'attachement à l'OTAN est très fort, ce qui n'empêche pas dans certains pays comme la Hongrie une politique qui est en réalité pro-russe de la part du gouvernement Orban, qui est en fait tout à fait favorable à l'influence de la Russie sur l'économie hongroise.
On a vu quand même cette espèce de double jeu ou de méfiance de la part des pays est-européens par rapport à l'Union européenne. Est-ce qu'il y a une déception à Bruxelles par rapport à ce qui s'est passé depuis 15 ans, Émilia Robin ? Est-ce qu'on le dit officiellement ou officieusement ou sous le manteau que c'est quand même pas facile de travailler avec ces gens-là ?
Mais ces gens-là sont nous. C'est-à-dire que les déceptions sont potentiellement mutuelles. C'est-à-dire que c'est l'Europe à 27-28. Hein. Donc à partir de là, dans chacune des réunions internationales, il y a des effets de jeu multilatéral ou bilatéral, des effets d'alliance. Il y a certainement une déception ou une inquiétude. Cela s'est vu que les décisions de l'Union européenne fin 2017 à propos de la Pologne sur la mise en garde concernant l'état de droit. Et donc oui, il y a cette inquiétude affichée sur la question de la démocratie.
Y a-t-il à Bruxelles, et je précise ma question pour vous, Laure Neumeyer, une vision selon laquelle l'élargissement à l'Est a empêché l'approfondissement de l'Europe et que ça a posé problème, que ça a bloqué pendant quelques années le développement des institutions européennes. Est-ce qu'il y a ce petit reproche qui existe ?
Alors officiellement non. Jean-Claude Juncker s'est félicité encore récemment de pouvoir fêter les 15 ans d'un élargissement qu'il a présenté comme une réussite, etc. Mais dans les discours officieux, évidemment, on se rend compte que être à 27 avec des pays qui ont une histoire complètement différente, c'est plus compliqué que d'être à 15. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus rejeter la faute totalement sur les pays de l'Est en disant que ce sont eux qui ont
bloqué. Une question de point de vue, hein, c'est en fait ce que je voulais vous dire, oui, absolument.
Si on pense au Brexit, si on pense à la crise de la zone euro et aux difficultés de gestion de cette crise par les gouvernements ouest européens ou les autorités européennes, les responsabilités sont partagées. Mais c'est vrai que les dérives autoritaires des pays, enfin de la Hongrie, de la Pologne et de la Roumanie à l'heure actuelle, alimentent une sorte de discours selon lequel on aurait fait l'élargissement trop tôt, avec des démocraties qui n'étaient pas assez stabilisées, et on a perdu en fait, en intégrant ces pays, les moyens de pression dont on disposait avant l'adhésion. C'est-à-dire qu'avant l'adhésion, avec toute la conditionnalité dont a parlé Emilia, on surveillait en fait ce qui se passait dans ces pays. Et puisque leur gouvernement voulait adhérer, ils étaient forcés de respecter ces fameux critères de Copenhague qui perdent de leur puissance dès lors qu'ils sont entrés.
Il y a un lien politique, mais il y a aussi un lien financier. Ce sont les fameux fonds structurels européens. Est-ce que c'est quelque part, Emilia Robin, ce qui rattache encore ces pays, la Hongrie, la Pologne, à l'Union européenne, qui les force un peu à avoir des relations, disons, au moins cordiales?
Alors effectivement, les fonds structurels jouent un rôle énorme, de la même façon qu'ils ont contribué notamment à l'essor en leur temps du Portugal, par exemple, ou de la Grèce quand ils ont intégré la CE. Les fonds structurels ont permis une élévation du niveau de vie et une convergence des économies énorme. Et donc c'est sur le modèle des États méditerranéens qu'on a intégrer précocement l'Europe de l'Est dans l'idée que ces fonds structurels permettraient un rattrapage économique et donc social et politique de façon plus rapide que s'ils n'étaient pas dans l'Union européenne. Donc ces fonds jouent un énorme rôle, mais il y a également, il ne faut pas oublier inversement, le rôle de levier que l'Union européenne peut jouer pour les pays d'Europe de l'Est. Ils sont membres de l'Union européenne et donc ils ont l'Union européenne avec eux comme relais, comme des multiplicateurs de puissance, qui est aussi une raison d'adhérer.
Est-ce que c'est une façon de faire un petit peu pression, ces fonds structurels européens aujourd'hui, Laure Neumeyer? Il reste très peu de temps.
Alors pour l'instant non, mais il y a des débats en ce moment pour savoir si dans le prochain budget de l'Union européenne, on ne va pas lier l'attribution des fonds structurels à certains critères politiques, ce qui pourrait fortement gêner le gouvernement hongrois ou polonais.
Merci Laure Neumeyer, merci à vous Émilia Robin également d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Arnold Assewa à la coordination, Vanadis Feuille à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Participez au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.